Vous écoutez
RMC.
Damien Perrinel, est-ce que tu as déjà répondu à des journalistes en leur disant « Je crois que le groupe vit bien ».
Ah non, j'ai dû dire.
J'ai dû le faire une fois ou deux.
J'ai dû
même
dire. Ouais, on s'est dit les choses.
D'accord. Voilà, d'accord.
On s'est dit les choses.
Ouais, c'est pas pire que le groupe vit bien. Voilà. Mais bon, cette question-là, est-ce un préalable indispensable pour gagner un championnat ou même une Ligue des Champions? C'est une question qu'on se pose. C'est vrai qu'au PSG, on livrait les informations de Mohamed Bouafsi. Au PSG, on dit que depuis la reprise notamment de l'entraînement, jamais le PSG n'a aussi bien vécu. La plupart des joueurs sont partis en vacances ensemble récemment. Parlons également des anniversaires récurrents entre joueurs du PSG. Qui suscite parfois des polémiques. Tiens, on en parle, ce sujet-là, avec un préparateur mental de plusieurs footballeurs professionnels. Raphaël Omat, un habitué de l'After, est avec nous. Salut Raphaël.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Raphaël. Alors, je pose la question directement. Hein. Est-ce qu'il faut forcément, faire du canoë en prépa estivale ensemble? Est-ce qu'il faut faire des anniversaires ensemble, partir en vacances également ensemble, pour gagner des trophées? Est-ce que c'est indispensable?
Alors, c'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que la cohésion sociale, la bonne entente dans une équipe est hyper importante. Vous savez, moi, je présente très souvent la performance aux footballeurs avec lesquels je travaille comme un smoothie. C'est-à-dire comme une performance, elle est multifactorielle, il y a plusieurs ingrédients, et ces ingrédients, ils sont mixés ensemble. Alors, les ingrédients qu'on connaît le plus souvent, bien évidemment, c'est la prépa physique, d'accord, la prépa technique, la prépa tactique, l'aspect mental, l'aspect cognitif, tout ça c'est hyper important et je crois que maintenant on le connaît quand même bien dans le foot. Mais un des ingrédients aussi qui est super important, c'est justement l'aspect social. Parce que selon l'ambiance qu'il y a dans le groupe, un joueur va tenter certains gestes. Je vais parfois avoir une meilleure technique simplement parce que je me sens bien dans ce groupe et que j'ose faire ce geste sans dire que je vais me faire juger ou critiquer par les uns par les autres. Et puis bien entendu, ça joue aussi sur l'aspect physique parce que on peut penser que quand on s'entend bien, ben on va être prêt aussi à faire un peu plus d'efforts et des fois dépasser un petit peu son rôle.
Damien, est-ce que toi, t'as déjà gagné dans une ambiance pourrie?
Pas pourrie. Alors c'était plus compliqué. Après, c'est vrai que Raphaël parle de la cohésion sociale que tu peux avoir au sein d'un groupe, mais il faut savoir que le groupe, c'est pas uniquement les joueurs. En fait, la partie la plus importante, il y a aussi le coach, ses adjoints, c'est tout ça. C'est le groupe, et c'est eux qui donnent la couleur d'une ambiance, peut-être. Quand on va boire un coup, pourquoi aller boire un coup qu'entre joueurs? Pourquoi le coach ne pourrait pas venir, en fait? Parce que au bout d'un moment, on est tous.
Il y a un rapport hiérarchique quand même. Il faut garder une distance quand t'es coach.
Ça n'empêche pas que, in fine, c'est tout le monde qui gagne. Le coach gagne, l'équipe gagne. Tu vois, donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Ensuite, c'est le développement de la confiance que tu peux avoir au sein du groupe. Tu peux t'entendre, ne pas t'entendre avec des personnes. À partir du moment où t'es libre de parler, de dire ce que tu penses, de garder le moins de choses pour toi, d'être toi-même, tout simplement, au sein de ce groupe, là, tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même pour le collectif. C'est ça, sans avoir ce regard, le jugement, le regard de l'autre, qui peut être pesant parfois, et du coup, parfois, si t'oses pas dire merde à ton pote, ou que tout de suite, il va prendre la chose assez mal, d'ailleurs, tu ne voudras plus parler, tu vas garder les choses pour toi, tu vas te renfermer, et c'est ça, en fait, qui crée derrière une ambiance malsaine au sein d'un groupe.
La question également, c'est qui est garant d'une ambiance du groupe? Est-ce que c'est forcément l'entraîneur? Parce qu'au PSG, à titre d'exemple, hein, on a le sentiment que c'est l'effectif, les joueurs eux-mêmes qui cultivent cette ambiance-là, qui d'ailleurs s'en targue et s'en vante. Hein. On est soudés entre nous. Il y a eu parfois une distance avec Thomas Tuchel, qui existe encore un petit peu aujourd'hui, un peu moins. Mais qui est garant de cette ambiance? L'entraîneur ou les joueurs entre eux?
C'est normal que l'entraîneur, quand tu demandais à Damien pourquoi l'entraîneur n'a pas à boire des coups, mais c'est normal, il y a un rapport hiérarchique à respecter. Mais je pense que dans chaque groupe, de toute manière, il y a des mecs qui sont pas forcément les capitaines, mais souvent on utilise cette expression leader de vestiaire. Je suppose que c'est ces joueurs-là qui sont un petit peu garant de la bonne humeur et de la bonne entente entre les joueurs. Après, j'ai l'impression que quand on parle de dynamique de groupe, de toute manière, c'est un petit peu un lieu commun, parce que enfin le foot c'est un sport co, quoi, tu vois. Donc forcément, si tu t'entends pas avec tes coéquipiers, je doute que ça puisse forcément marcher.
Non, après toi, pour en venir sur les...
Allez-y, Raphaël.
Non, j'allais dire, c'est vrai que c'est un lieu commun, mais pour autant, on voit bien que dans le management, il y a vraiment des approches qui sont très différentes. entre certains entraîneurs et a priori il y a deux trois clubs aujourd'hui où l'ambiance est pas très bonne et pour répondre à la question de qui est garant de cette bonne ambiance, je pense honnêtement qu'il y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que ce leadership, il appartient au staff, à l'entraîneur certes, comme il appartient également aux joueurs. Et c'est vrai que là on a l'impression que sur cette bonne ambiance c'est plutôt une initiative qui vient initialement des joueurs, même si Tourelle y contribue sans doute, mais on voit qu'il y a une très très bonne ambiance des joueurs entre eux, même en dehors des temps club PSG.
Mais justement, pour rebondir
sur leurs vacances.
Pour rebondir sur ce que vous dites, Raphaël, et c'est là où le coach aussi est important, parce que le coach doit accepter ces joueurs
bien
tels
sûr,
qu'ils sont, accepter leur personnalité, accepter leurs différences. Peut-être que t'as un mec
en fixant des limites quand même.
T'as des limites à fixer si elles sont dans l'intérêt du collectif. À partir du moment où t'as quelqu'un qui assume derrière sur le terrain dans l'intérêt du collectif, ouais, là t'as ce cadre en fait qui est régi par le coach, par le directeur sportif peut-être si tu veux. C'est comme ça. Mais toi regarde, moi j'ai vécu une expérience managériale extraordinaire aux États-Unis. Une différence de management entre ce que j'ai pu vivre ici en France et aux États-Unis. C'est-à-dire que là-bas, le premier jour, j'étais avec ce coach Jesse March qui est aujourd'hui au Red Bull Salzbourg.
Quand tu joues à New York.
Quand j'étais à New York. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui respire déjà la joie de vivre, la confiance. Et tu arrives là-bas, tu souris avec lui. Et tu dis, il rayonne dans une pièce déjà, à la base. Et c'est quelqu'un, tu peux lui dire des choses, il ne va pas s'en servir contre toi, derrière, pour peut-être t'assassiner si un jour tu es moins bon ou ainsi de suite. Et on n'a rien à se cacher. Tu es un groupe, personne ne se cache rien. Tout le monde peut se dire, tout le monde s'accepte tel qu'ils sont. Et ça, ce sont des choses qui rejaillissent derrière sur un terrain.
La meilleure exemple, c'est l'équipe de France en 2018, quoi. Où Deschamps, on a souvent reproché le choix de certains joueurs, mais lui a toujours mis la dynamique de groupe en avant, de construire un groupe de 23 mecs qui sont capables de pas forcément se foutre sur la gueule pendant deux mois. Et puis on a vu aussi que des joueurs qui ont pas joué comme Adil Rami ont quand même été importants, je pense, pour maintenir l'équilibre entre les différents joueurs et maintenir le lien avec le staff. Et une petite question pour notre invité, on voit ce qui se passe en ce moment à Saint-Etienne avec le management de Claude Puel qui est peut-être qu'on peut qualifier un petit peu d'autoritaire,
management strict quoi. Juste selon lui.
Ouais, la gestion du cas Ruffier qui est un joueur qui est hyper important dans l'histoire stéphanoise. Vous, comment vous voyez ce type de management assez strict, assez sévère, où il n'y a pas de passe-droit, pas de respect des statuts, et comment vous voyez son impact sur une dynamique de groupe?
Alors, avant notre réponse, Raphaël Lemat, il y a un pénalty pour le Real Madrid, c'est important parce que le Real mène déjà 1-0, Morgan Mori.
1-0, 74e minute, pénalty pour
28e but de Ramos cette saison, non?
Oui, pour entériner peut-être le titre de champion, le 34e de l'histoire du Real Madrid. Sergio Ramos, une percée côté gauche. Il a été accroché sur la craie, sur la ligne blanche de la surface de réparation, et le capitaine barbu du Real Madrid va se chargé de transformer le pénalty pour peut-être offrir le titre à son équipe à un quart d'heure de la fin. Dans le même temps, le Barça et Osasuna sont à égalité, un partout. Ça prend du temps parce qu'il y a peut-être une analyse vidéo pour vérifier que Ramos avait bien le pied sur la ligne et qu'il était bien entré pour quelques centimètres, quelques millimètres dans la surface de réparation.
Voilà, lorsqu'il a été vicieux, hein.
Parce que lorsqu'il a été bousculé
par
le numéro 22 du club de Villarreal. C'est l'attente, en tout cas.
C'est important, en tout cas, Morgan.
Ouais, match, occasion, penalty très important, jusqu'à 2-0. Il faudrait que Villarreal en mette 3 si le score en restait un partout entre le Barça et Osasuna pour garder ce championnat en vie. Ça va se tirer avec Sergio Ramos. Ouais. 4 pas d'élan dans sa tenue blanche immaculée. Il s'arrête dans sa prise d'élan.
Comment
il fait la passe à Karim Benzema et qui marque en deux temps le Real Madrid. Le penalty en deux temps. Peut-être à retirer à la manière d'Arsenal de Pires et Thierry Henry, et en tout cas les joueurs de Villarreal qui viennent protester extrêmement fort auprès de monsieur Hernandez. 1-0 pour le Real Madrid. Est-ce que le pénalty a été validé? J'ai pas l'impression par l'arbitre Sergio Ramos qui a pris deux pas d'élan. Il s'est fixé sur sa jambe gauche. Il a fait rouler le ballon avec la semelle du pied droit pour Karim Benzema qui était entré comme une fusée dans la surface de réparation et qui a pris à contre-pied le gardien de Villarreal. Ramos qui a regardé avec des yeux exorbités.
Sauf Morgan, qu'il est entré dans la surface de réparation avant même que Ramos touche le ballon, donc il n'avait pas le droit. Donc ça va être à retirer. Et c'est Benzema qui va le tirer, je crois d'ailleurs.
Karim Benzema qui a pris le ballon dans ses mains. Il vient de le poser sur le point de pénalty, les mains sur les hanches, tandis que 7 ou 8 joueurs de Villarreal sont autour de l'arbitre pour comprendre cette décision de faire retirer ce pénalty et pas de siffler une faute. 75 minutes et 36
Morgan,
secondes.
Comme quoi, c'est pas si facile à faire, ces pénalty à deux. On s'était moqué de Robert Javier Pires à un moment donné à Arsenal.
Bah, quoi, oui, t'as raison.
Ouais. Mais c'est pas si simple à faire.
Et hein. C'est des cadors là aussi, hein. Sergio Ramos, Karim Benzema, qui voulaient trouver une façon originale, peut-être de marquer, de planter la dernière banderie dans ce titre de champion d'Espagne. Ça a été, ça a été raté, peut-être pas nécessaire, peut-être un peu prétentieux aussi face à Villarreal. 76 minutes et 5 secondes dans un instant. Le deuxième penalty, bah, c'est le même, va être tiré par Karim Benzema qui a marqué, qui a ouvert la marque dans cette partie, son 20e but de la saison en Liga. Allez, est-ce qu'il va inscrire le 21e? Il a marqué ses 4 derniers penalties en Liga. 3 fois sur le côté gauche, une fois à droite. Karim Benzema, c'est parti, du poteau et c'est dedans. 2-0 pour le Real Madrid. Celui-là ne souffre d'aucune contestation. C'était simple et c'était bien réalisé par Karim Benzema. 76 minutes et 30 secondes. Zidane garde le masque, mais le Real Madrid mène 2-0 face à Villarreal. Le titre n'a jamais été aussi proche.
Merci Morgan. Le titre, c'est dans 10 minutes, hein, même pas 15 minutes pour le Real Madrid. Tiens, la question que tu avais posée à notre préparateur mental dans l'after, Raphaël Aumat. Oui, c'est vrai, le management strict par l'autorité, mais juste selon Claude Puel. Est-ce un bon management justement pour maintenir une ambiance collective dans un groupe?
Oui. Votre question par rapport à la gestion de Stéphane Ruffier, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut sembler dur, eu égard à ses services avec ce club. Après, cette gestion-là peut aussi renforcer la cohésion au sein du groupe, mais cette fois-ci, je vais parler que des joueurs et pas forcément vis-à-vis du staff. C'est-à-dire que les joueurs peuvent aussi faire front, se serrer plus les coudes par rapport à ce type de management. Par contre, la difficulté, ça peut être que si les résultats, le début de saison de Saint-Étienne n'est pas top, ben ça peut, on va dire, agrandir ou créer une scission vis-à-vis de l'entraîneur.
Mais après,
de manière générale. Ouais, j'allais juste dire, pardon.
Allez-y,
Raphaël. Pardon. Non, j'allais juste dire aussi, je suis pas sûr, excusez-moi, je crois que c'est Damien qui évoquait aussi une expérience qu'il avait vécue aux États-Unis avec son entraîneur.
Ouais.
Ce type de management, je pense, c'est vraiment très, très bien. Ça demande de la part de l'entraîneur à la fois de l'humilité, c'est-à-dire reconnaître que de toute façon, il ne peut pas tout contrôler, toutes les interactions entre ses joueurs, donc ça demande une certaine dose d'humilité, et ça demande également beaucoup de confiance. C'est-à-dire qu'il est capable de laisser le lead à ses joueurs, tout en sachant qu'il est capable aussi après de les embarquer dans ce projet commun, dans ce projet tactique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, des fois, qui devraient avoir à la fois plus d'humilité et plus de confiance. Et c'est pas contradictoire.
Damien, avant de donner la parole rapidement, c'est terminé à Lyon, Edouard G.
Un match bizarre avec deux buts confus aux 20e et 25e minutes. Les Rangers, donc, l'emportent dans un match donc bizarre au final. Les Lyonnais, avec une équipe bis un petit peu au départ. À la fin, il y a eu les meilleurs qui sont rentrés, ça c'est vu, mais tout cela s'est transformé sur une attaque défense avec aucun but pour Memphis, Aouar ou encore Dembélé ou encore Guimaraes qui ont tenté. Donc première défaite dans cette série de matchs amicaux pour l'OL qui l'avait emporté face à Nice notamment ici même.
Okay.
Et première défaite dans ce tournoi Veolia ici au Groupama Stadium. Deuxième match pour les Lyonnais samedi face au Celtic.
Merci, excellente soirée à toi Edouard. Damien.
Ouais, pour terminer rapidement, c'est vrai que tu faisais allusion, parfois ça peut resserrer les liens entre joueurs quand on a un coach qui a un management dictatorial,
presque, oui, en tout cas autoritaire,
entre guillemets, très autoritaire. Mais en fait c'est ça le souci, c'est-à-dire que quand t'es joueur, ça dépend encore des caractères de chacun, mais de jouer contre un coach pour lui montrer qu'il se trompe, je suis pas sûr que ce soit la bonne démarche, la démarche positive, vraiment de dire voilà, ah par contre là le coach me fait confiance, ben je vais lui rendre cette confiance sur le terrain. Vraiment, tu vois.
Ah, mais je suis d'accord. C'est
une vision complètement différente. Et je pense qu'à court terme, de vouloir toujours prouver au coach qu'il s'est trompé parce qu'il m'a pas fait jouer la semaine d'avant, à terme, tu peux pas aller. C'est ce qu'a fait un Mourinho, par exemple.
C'est quoi, les gars, on va prolonger ça. Cette thématique-là.
Ce sont des leviers, en fait, qui sont usants. Et en effet, vous évoquez le cas de Mourinho. Bon, ok, qui était un très bon entraîneur. Et bien évidemment, je vais pas revenir là-dessus. Mais n'empêche qu'on peut avoir le sentiment, comme ça, que c'est quelqu'un qui aurait du mal à rester 7-8 ans dans un club. Et je rejoins tout à fait ce que dit Damien. C'est-à-dire que c'est des leviers qui peuvent marcher un temps. Mais comme je dis, par contre, si le début de saison n'est pas top, c'est pas forcément pour cet entraîneur qu'on aura aussi envie de se battre. C'est pas forcément toujours quelqu'un qui nous valorise et vis-à-vis duquel on a envie de faire aussi beaucoup d'efforts.
Raphaël Aumat est avec nous. Vous restez avec nous, Raphaël. On va revenir dans un instant pour la suite de l'after. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Bacardi, avec Damien Perrinel, on est ensemble jusqu'à minuit. Et bien sûr, tiens, les tours par nos directs. Le Real Madrid face à Villarreal, Morgan Morey.
Plus qu'une dizaine de minutes à patienter, peut-être, et le Real sera sacré champion d'Espagne. 2-0 pour l'instant pour le club de Zinedine Zidane face à Villarreal. Un doublé de Karim Benzema. À l'instant, réduction de l'écart de Villarreal. Une superbe tête au niveau du point de pénalty qui frôle le poteau et qui rentre, il me semble. Thibaut Courtois qui est battu. 2-1 pour le Real Madrid face à Villarreal. Dans le même temps, le Barça et Osasuna sont à égalité, 1-1 si le Real l'emporte. Hein, c'est la première condition. Si le Real marque les 3 points, c'est sûr. Titre pour Zinedine Zidane et ses garçons.
Même en cas de match nul, hein, si le Barça fait nul également, le Real sera champion. L'Angleterre, Crystal Palace, Manchester United, Aurélien Tiersin.
Ça se passe bien pour United et les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. 20 minutes encore à jouer, 1-0 grâce à Marcus Rashford dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Il y aurait pu avoir l'égalisation de Jordan Ayew, mais il était hors jeu. Allez, de 2 mm, c'était vraiment... quand c'est comme ça, on a envie de dire avantage à l'attaque parce qu'on a attendu 5 minutes avant de voir qu'il y avait hors-jeu. Vraiment, c'est le crampon. Ça aurait pu faire un partout, mais ça fait donc 1-0 pour Manchester United qui doit gagner dans la course à la Ligue des Champions puisque Leicester s'est imposé cet après-midi contre Sheffield United. Et puis en Serie A, c'est la mi-temps. La deuxième mi-temps va reprendre dans quelques secondes et l'Inter mène sur la pelouse de la Spal 1-0 grâce à Antonio Candreva.
Appelez-nous, supporters lyonnais, dans un instant, on va débriefer la défaite de l'Olympique lyonnais face aux Rangers, 2-0, malgré une supériorité numérique, et également supporters bordelais, appelez-nous, parce qu'on va jouer, comme on l'a fait il y a deux jours, pour l'Olympique de Marseille. Et si vous étiez le head football des Girondins de Bordeaux, ou de Bordeaux Girondins, que feriez-vous? Quelle serait votre première décision? Quel joueur vous feriez partir, et quel joueur vous aimeriez faire venir aux Girondins?
Oula, je te sens fébrile sur le sujet, Nico. Non, ça va aller?
Moi, j'aurais pas d'avis là-dessus. Voilà. On va être très clair. J'ai un avis trop subjectif.
Pas drôle, t'es pas drôle.
Mais nous sommes toujours avec Raphaël Omat, préparateur mental, qui est avec nous pour évoquer notamment le sujet du management et de l'ambiance collective. Comment réussir à fédérer autour de soi, et est-ce que c'est un préalable indispensable pour être sacré champion ou remporter la Ligue des Champions? Jonathan,
j'ai une petite question. Vas-y. C'est plus une observation générale. Donc, par rapport à il y a 20-30 ans, on peut le dire. Hein, moi, c'est ma génération, donc je m'inclus aussi dedans. Mais la génération Y, là, qui est quand même bien moins rude que les générations précédentes. On est un peu une génération de pleureuses égocentriques. Je pense que ça se voit aussi dans les comportements des footballeurs d'aujourd'hui par rapport aux footballeurs d'il y a 30 ans. J'ai l'impression que ça rend d'une part votre travail indispensable, parce que les relations entre les êtres humains sont un peu plus compliquées pour cette génération-là. Et la question que j'ai, c'est est-ce que vous avez vu une évolution, vous voyez une évolution des comportements de génération en génération, des dynamiques de groupe qui sont de plus en plus différentes et des rapports qui sont peut-être un petit peu plus difficiles et délicats à gérer pour des jeunes joueurs, enfin c'est pas joueurs, pour
avec
des jeunes
avec lesquels vous travaillez,
voilà,
en fait,
pour des d'ailleurs. Jeunes qui sont de plus en plus égocentriques, beaucoup moins courageux,
auto-centrés aussi, c'est ça, ouais.
Ouais, voilà.
Ouais, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que il y a une approche de plus en plus, il me semble de plus en plus individuelle de la performance, y compris si après cette performance est collective. Et puis aussi pour aller un peu dans le sens de ce que vous disiez aussi par rapport à la génération Y, moi, ce que je vois de plus en plus évoluer aussi, c'est l'importance des réseaux sociaux. Et je trouve que de plus en plus de joueurs vont être sensibles aussi au feedback qui peut revenir de certains supporters, qui vont juger aussi leur perf. Donc là, c'est sûr qu'on est moins dans quelque chose en lien avec la cohésion, mais ça prend aussi une place dans mon travail par rapport à ce qu'on va appeler les états internes. Comment se sent le joueur quand il est sur le terrain. Et encore une fois, je disais tout à l'heure que la cohésion de groupe pouvait influencer, ça on le sait, la technique, c'est-à-dire les gestes qu'on va oser faire. Certains joueurs ne vont pas jouer. Ouais, bien sûr, ne vont pas jouer de la même façon, par exemple, à domicile et à l'extérieur, s'ils sont un peu pris en grippe, par exemple, par les supporters de leur club. Et ben, je vois que les réseaux sociaux, ont aussi un petit peu la même influence, en effet, sur la confiance et donc sur ce que l'on va oser faire sur le terrain.
Une question, Raphaël Omat. Est-ce qu'il faut s'insurger quand on voit des groupes de joueurs fêter un anniversaire tard dans la nuit et en plus publier ça sur les réseaux sociaux? Je pense notamment aux joueurs du PSG. Il y a eu un débat qui était assez vif, notamment ici. Hein, Jérôme Roten trouvait ça lamentable. D'autres disaient, ben non, c'est la preuve que les gars, ils sont bien ensemble. Qu'est-ce qu'il faut dire?
Moi, en tout cas, mon métier, c'est sûr que mon métier, c'est surtout pas de m'insurger. Et pour l'instant, si on se base que sur les résultats, aujourd'hui, on a du mal à dire que les anniversaires qui ont été célébrés. Alors, je suis désolé, je suis pas toujours bien d'actualité et tout sur les réseaux, tout ça.
Et après, mais, moi,
j'avais vu des images il y a peut-être 2, 3, 4 mois.
C'est ça.
Bon, pour le coup, pour l'instant, on peut pas dire que ça a eu une mauvaise incidence. Je serais plus à me dire que, encore une fois, pour revenir sur le thème de votre émission, ça montre aussi que le groupe vit bien. Après, c'est peut-être maladroit de le montrer. Il y a peut-être pas besoin de l'expliciter à ce point.
C'est les réseaux sociaux encore, ça, hein.
Bien sûr, ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça montre aussi que ça reste des jeunes hommes qui vivent bien ensemble, qui se marrent un peu. Ça aide aussi à faire des efforts et à se sentir bien dans le groupe.
Moi, je pense que ça n'a jamais fait de mal à personne, à n'importe quel groupe, de toute façon, d'aller boire un coup entre gars de l'effectif. Et tu peux faire ça 48 heures avant le match ou tout de suite après le match. Écoute, c'est pas ça qui va influencer.
Oui, c'était pas le problème en l'occurrence là.
Non, le problème c'est que ce soit sorti.
C'est sorti. En fait,
c'est
le problème, c'était que c'est sorti après un match pitoyable en Ligue des Champions et que maintenant, et ça, on l'a soulevé, c'est la problématique de la vitesse de diffusion de l'information avec les réseaux sociaux, c'est instantané et surtout ça se diffuse en masse. Et faut aussi se mettre à la place des supporters qui eux l'ont peut-être mal, ont mal vécu le fait de voir des joueurs qui ont été minables sur le terrain auparavant dans une compétition qui est importante pour eux, faire la fête et être à moitié bourré.
On peut faire pareil dans ce cas-là avec certains joueurs du PSG ou d'ailleurs moi j'apprends que le troisième gardien du PSG roule en Lamborghini par exemple.
Et alors?
En gros, ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il va gagner, je sais pas combien, il joue jamais. Donc, en gros, exactement. C'est-à-dire qu'on va juger parce qu'il va rouler en Lamborghini, quoi que ce soit. On s'en fiche, en fait, au bout d'un moment. Mais voilà. Faut que les supporters prennent un peu de recul de temps en temps et que ce sont les premiers, peut-être, après une défaite de leur équipe, à aller boire un coup. Mais bien sûr.
Alors, moi, il y a aussi le thème des passes droits dans des clubs, notamment. Des joueurs qui ont des statuts privilégiés. Je pense à Neymar, notamment. Souvent les rendez-vous annuels au Carnaval de Rio en février. Est-ce que ça aussi, quand on manage un groupe, pour l'ambiance collective en tout cas, on peut accepter ça, Raphaël Omat? On peut accepter qu'un tel a un tel statut qu'il peut faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire? Parce que ça peut fragiliser un groupe.
Ben, moi, je serais aussi très, très content d'avoir après l'avis de Damien par rapport à ça, mais... Je veux dire, tout peut s'entendre. C'est juste encore une fois que si on a des passe-droits, ça doit être pour des raisons visibles sur le terrain. Donc je pense que ces passe-droits, ils sont souvent acceptés, tolérés quand la personne est très performante sur le terrain et encore une fois que l'équipe atteint les objectifs fixés. Là où ça va devenir un peu plus compliqué, où certains vont peut-être justement se désunir et protester vis-à-vis de ces passe-droits, encore une fois, c'est une fois que la vie est un peu moins rose et que la personne qui bénéficie de ces passe-droits ne nous montre pas des performances au niveau auquel on les attend, quoi.
Et c'est là où le groupe, faut que le groupe soit fort. C'est-à-dire que oui, on peut tout tolérer. À partir du moment où, ce joueur qui a ses passe-droits et qui d'ailleurs n'est pas performant, il faut que t'aies des joueurs de caractère, déjà, au sein de l'équipe, qui remettent ce mec en place. Et non pas qu'il y en ait deux, trois, quatre qui se mettent de son côté. Et c'est là où ton groupe explose, en fait, au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ensuite, tu peux avoir 4-5 joueurs qui mettent une ambiance pourrie parce que en gros t'as fait une remontrance à ce mec-là qui est peut-être la star de l'équipe et ainsi de suite. Tu vois, c'est un équilibre qui est super fragile à trouver. À partir du moment où ce mec-là va te faire gagner des matchs et que tu sais, toi en tant que joueur, qui peut te faire gagner ces matchs, tu vas tolérer.
Tu tolérais toi ou pas quand t'avais un leader qui c'est des écarts parfois disciplinaires ou qui avait des libertés que tu avais pas.
Moi, c'est-à-dire que le problème,
c'était toi ce joueur d'ailleurs.
Le problème, c'est qu'avec ma personnalité, avec mon caractère, moi j'avais du mal à accepter le joueur talentueux qui ne travaillait pas à la base.
Oui.
Pourquoi? Parce que je me disais, mais moi j'aimerais tellement avoir ton talent et avoir ma volonté de travail. Mais ça fait que je serais encore plus haut. Donc si tu veux, j'avais du mal à comprendre. Aujourd'hui, avec le recul que je peux avoir en ayant passé mes formations de coach, ainsi de suite, je peux comprendre ce joueur talentueux. Tu vois, et c'est là la différence. Après, le joueur talentueux, de toute façon, dans un groupe, c'est ce qui va te poser problème. J'ai presque envie de dire au niveau du comportement, au niveau de ton caractère.
Le problème peut être résolu, je pense, assez simplement. Je pense que dans une équipe, ou que ce soit dans le monde de l'entreprise, ou peu importe, c'est l'entraîneur doit être le garant du respect, de la méritocratie. Et à partir de là, je pense que ça empêche quand même pas mal de problèmes.
Ok, très bien. Alors maintenant, si on fait le parallèle avec le cas Ruffier, par exemple à Saint-Etienne,
oui.
Hein, on peut faire le parallèle. Est-ce qu'on sait quel a été le comportement de Stéphane Ruffier pendant 6-7 ans à Saint-Etienne?
Sans vague. isolé mais sans vague.
Est-ce que de l'intérieur, est-ce que tu sais que parfois Stéphane Ruffier n'avait pas envie de s'entraîner le matin et qu'il sortait pas s'entraîner?
Mais alors quand j'ai parlé de méritocratie, Damien,
c'est
les performances sur le terrain pouvaient peut-être permettre d'accepter.
Oui, mais c'est intéressant.
C'est ça le mérite.
Oui, mais le problème, c'est que demain, si t'es un petit peu moins bon, comme Stéphane Ruffier a pu avoir un coup de moins bien quand même,
notamment
sur 6 ou 7 ans de carrière,
équipe.
Peut-être, mais à bout d'un moment, c'était lui qui se faisait différence.
Moi, ça me choque
mais
pas.
Mais oui,
parce
mais derrière,
c'est
manager, t'es obligé de sanctionner.
Mais dire,
sinon, tu fais quoi avec le reste de ton groupe? Qu'est-ce que tu fais avec ton numéro 2?
Attends, je m'attends.
Qu'est-ce que tu fais avec ton numéro 2 qui, lui, se casse le cul à sortir quand il pleut, quand il neige et qui se met dans la boue pendant que t'as ton gardien titulaire qui est sur la table de massage et derrière, qui est un peu moins performant. Bon, comment tu gères tout ça?
Je vais dire pourquoi je trouve que c'est différent. C'est parce que quand je parle de méritocratie, je pense que ta performance au travail, en l'occurrence sur le terrain, peuvent te permettre d'acquérir certains droits, voire certains passe-droits. Je te dis pas qu'ils doivent être éternels, ça on est d'accord, parce qu'au bout d'un moment, si tu fais une saison pleine ou 6 mois pleins, la tête dans le seau, évidemment que tes passe-droits et tes droits, tu les perds. Mais là, en l'occurrence, ça a pas duré une demi-saison non plus. C'était sur une période de 3-4 matchs où tout le groupe avait la tête dans le seau.
Mais il a fait ça avec des coachs auparavant qui le connaissaient peut-être. Et là, t'as un nouveau coach qui arrive. Il y a peut-être
performant.
Une nouvelle manière de voir les choses. Il accepte pas. Il est obligé de fonctionner.
Raphaël Lemath, une dernière question sur mon central dans votre travail de préparateur mental. Vous travaillez avec plusieurs joueurs professionnels qui évoluent en Ligue 1, notamment en Ligue 2. C'est ça, Raphaël?
Oui, bien sûr. Oui.
Quel est le problème qu'il rencontre actuellement? Quelle est la question qu'il vous pose aujourd'hui, le plus souvent?
Écoutez, le plus souvent, ça va être des problématiques liées au stress, au manque de confiance et parfois aussi sur des retours de blessures. C'est-à-dire que la rééducation a été faite, la réathlétisation a été faite, tout ça a été très très bien fait, ils sont très bien suivis. Et pour autant, si le joueur à ce moment-là a de l'appréhension, dès qu'il va se retrouver dans des situations, on va dire, similaires à celles qui ont créé la blessure, s'il a un petit peu d'hésitation, s'il s'engage un petit peu moins que l'engagement nécessaire pour être à ce niveau-là, on sait que soit il peut perdre sa place, soit il peut se reblesser. Et donc on va dire que c'est les trois cas de figure qui amènent des sportifs, en l'occurrence là des footballeurs professionnels, à envisager de faire de la préparation mentale.
Raphaël Lemath, bien, je vous remercie. Merci Raphaël d'être venu éclairer notre sujet
merci
du soir
beaucoup.
Dans l'after. C'était un plaisir de vous écouter.
Ça a été un grand plaisir également. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Et puis moi, je retourne à mon barbecue.
Bon barbecue alors, Raphaël. Excellente soirée
à
vous.
Merci, messieurs.
Un but du Real, encore une fois, Morgan Mori.
Oui, le troisième pour le Real Madrid. But de Asensio après un formidable déboulé, un petit numéro d'équilibriste de la part de Vinicius sur le côté gauche qui a servi Asensio dans la surface de réparation. Et Asensio n'a eu qu'à placer le ballon au fond des filets. Mais dans ce temps additionnel de 6 minutes pour le match Real Madrid-Villarreal et de 7 minutes pour Barça-Osasuna. Il s'est passé plein de choses. Courtois a sauvé deux fois son équipe. Un arrêt main droite enchaîné avec un arrêt du tibia.
Alors le but apparemment a été annulé, Morgan.
Le but d'Asensio annulé pour une main. Ça fait toujours 2-1 pour le Real Madrid face.
Attends, on va rester avec toi parce qu'il reste 10 secondes là.
Face à Villarreal et le Barça est mené 2-1 par Osasuna. But de Torres en contre. C'en est fini pour le Barça. Quoi qu'il arrive, dans 5 secondes, le Real Madrid sera sacré champion d'Espagne, 34e titre de son histoire et c'est terminé. 34e titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid. Zinedine Zidane qui ajoute une deuxième Liga à sa ceinture, son 11e titre avec le Real Madrid, avec un grand homme Karim Benzema, auteur des deux buts de cette partie. Alors oui, personne au stade Alfredo Di Stefano, mais grande joie sur les visages. On danse, on saute, on fait tourner les serviettes pour les joueurs du Real Madrid et Zinedine Zidane qui vient saluer tout son staff et tous ses hommes.
Oui,
victoire
Belle.
Du Real et titre en Liga, le 34e pour le Real Madrid.
Eh bien, le deuxième en Liga pour Zidane après 3 Ligues des Champions. Le Real champion d'Espagne, tiens, on en parlera dans quelques minutes, bien sûr. Est-ce le plus beau titre du Real R Zidane? C'est notre débat du soir dans l'after. Tiens, écoutez, Fred Armel, qui est en vacances, nous envoie une réaction quand même ce soir.
Je kiffe, comme disent les jeunes.
Fred Hermel en quasi direct, en léger différé sur le 34e titre du Real en Liga. Merci Polo. L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr, avec Kevin Diaz qui nous rejoint et Jonathan Macardy, Daniel Perrinel. À tout de suite.